tu. L'endroit qui nous accueille durant ce mois d'août est, depuis l'époque romaine, un col important entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Au Moyen-Âge, les pèlerins le traversaient sur leur chemin vers Rome. Christian Chulet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien. Si le mois passé, nous nous baladions à une altitude inférieure à 400 mètres, ce mois-ci, vous nous emmenez à près de 2500 mètres à la frontière entre la Suisse et l'Italie, au col du Grand Saint-Bernard. Et notre visite commence d'ailleurs du côté italien de la frontière.
Exactement, Pierre, où nous sommes à proximité de vestiges qui témoignent de l'ancienneté du passage de ce col qui est fréquenté déjà depuis la préhistoire.
Quelques mots sur le nom du lieu.
Le Grand Saint-Bernard doit son nom actuel au fondateur de l'hospice, Saint Bernard, mais il n'en fut pas toujours ainsi. La première appellation connue est le Summus Poeninus, c'est-à-dire la montagne Pennine, un nom qui dérive d'un dieu indigène, le dieu Penn. Ce dieu Penn a été assimilé au dieu romain Jupiter après la conquête romaine, et c'est ainsi que le col ainsi que la montagne ont pris le nom de Mons Jovis ou Mont Joux, c'est-à-dire la montagne de Jupiter, et nous nous trouvons précisément sur le lieu où Jupiter était honoré, ce lieu qui a pour nom Plan de Jupiter. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le nom de l'endroit a été lié et est toujours lié à une entité protectrice, un dieu ou un saint.
Christian Chulet, on imagine bien qu'il y a eu des découvertes archéologiques.
Et elles ont été nombreuses au cours des siècles, effectuées notamment par les chanoines de l'hospice. Et ces découvertes sont pour la plupart conservées au musée de l'hospice.
Quelles traces avons-nous encore?
Parmi ces découvertes, nous avons des ex-voto. Ce sont des témoignages de reconnaissance à ce dieu Jupiter Poeninus, qui le plus souvent était gravé sur des plaques.
À quand remontent les fouilles?
Alors des fouilles sont entreprises en 1890 par le gouvernement italien, qui fait fouiller ce lieu justement appelé Plan de Jupiter ou Plan de Joux, où la présence d'un temple et d'une construction antique était déjà connue. L'année suivante, en 1891, on nous rapporte que les excavations ont déjà mis en relief le dessin et le plan de l'ancien temple de Jupiter Poeninus. Cette année, on découvrit des objets d'une rare valeur, des monnaies et des anneaux, des tablettes avec inscriptions votives des capitaines et centurions romains qui traversaient la montagne. Mais la découverte la plus importante, ce serait une statuette en bronze représentant un mercure debout d'une grande perfection artistique et admirablement bien conservée. Tous ces objets sont déposés dans le médaillé de l'hospice. Ces fouilles n'étaient ni les premières ni les dernières, et de nouvelles fouilles ont été réalisées encore dans les années 2000.
Est-ce que l'on peut voir encore la trace de ces vestiges actuellement?
On peut en voir, Pierre, juste à l'endroit où nous sommes. Et ces vestiges comprennent notamment les fondations d'un temple, le temple qui est situé au pied de la statue de Saint Bernard, et le temple auquel sont associés les témoignages de reconnaissance dont nous avons parlé. Et de part et d'autre, du tracé de l'ancienne voie romaine, se trouvent les vestiges de deux mansiones, c'est-à-dire de deux relais qui étaient destinés au ravitaillement et à l'hébergement non seulement des hommes mais aussi des animaux qui franchissaient le col par la route dont un tronçon est taillé dans la roche, le tronçon sur lequel nous nous trouvons actuellement.
Christian Chulet, qui étaient ces voyageurs à l'époque romaine qui passaient par là?
C'était essentiellement des militaires mais aussi des fonctionnaires et des marchands. Et l'importance de ce passage incite Jules César à envoyer une légion dans la vallée du Rhône en 56 avant Jésus-Christ afin de s'en assurer le contrôle. Et il déclare dans son ouvrage « La guerre des Gaules » que ce qui l'y détermina, ce fut le désir d'ouvrir au commerce la route des Alpes où les marchands ne circulaient jusque-là qu'au prix de grands dangers et en payant de forts péages. Et finalement, après l'intégration de la vallée du Rhône à l'Empire romain, cette voie de communication entre le nord et le sud des Alpes est rendue carrossable sur l'ensemble de son parcours à l'initiative de l'empereur Claude, qui a régné entre 41 et 54 de notre ère, et il l'a rendue carrossable dans la perspective d'aller conquérir la Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne.
Et d'ailleurs, il reste encore des traces de ce parcours romain.
Et ces traces, entre autres, ce sont des colonnes millières, c'est des bornes qui indiquaient la distance jusqu'à la ville principale suivante, et plusieurs sont conservées le long du tracé, notamment dans la région lémanique ou dans la vallée du Rhône. Et l'une de ces bornes millières est visible à l'extérieur de l'église de Bourg-Saint-Pierre. Et à propos de la route, on peut encore dire qu'on peut en voir un fragment à Martigny.
Finalement, Christian Chulet, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lieu?
C'est que cet ensemble formé par les vestiges du plan de Jupiter témoigne de l'existence d'infrastructures destinées à l'accueil des voyageurs déjà près de 1000 ans avant la fondation de l'hospice au XIe siècle. Et tout comme ce dernier, tout comme l'hospice, elles étaient associées au culte d'une divinité protégeant des dangers de la traversée. Depuis, la statue de Saint-Bernard a remplacé celle qui était dédiée au dieu Penn, le dieu Penn Optimo Maximo, le meilleur, le plus grand.
Christian Schiller, merci. Donc vous l'avez dit, le col du Grand Saint-Bernard porte le nom d'un homme dont la statue salue chaque voyageur de passage. Nous nous retrouverons la semaine prochaine au pied de ce monument pour parler du patron des alpinistes qui a vécu au XIe siècle. À bientôt.
À bientôt.